RFI 7h30, à Paris 6h30 en temps universel. Le journal tout de suite avec Édouard Dupénoide. Bonjour Édouard.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Prison ferme et lourde amende, les réquisitions contre un ancien Premier ministre de Guinée à la une.
Ibrahima Kassori Fofana, en l'occurrence ex-chef du gouvernement sous Alpha Condé, accusé notamment d'avoir dilapidé des fonds destinés à lutter contre la pandémie de coronavirus. Il est embastillé depuis bientôt 3 ans. Nos révélations ce matin, notre échange exclusif avec l'un des fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, qui affirme qu'il a supervisé le transfert de millions de dollars vers le clan Sarkozy du nom de l'ex-président français. Tout cela pour financer une campagne électorale. Des kidnappings en tous sens depuis 10 jours dans plusieurs pays du Sahel et la trace du groupe État islamique. Pourtant, peu coutumier de cette pratique, analyse à suivre dans quelques minutes.
Le dossier de ce journal, Édouard, retour à Abidjan avec les déguerpis de Port-Boué.
Qui retournent sur les lieux où se dressait leur maison avant que les godets des bulldozers n'entrent en action. C'était il y a quelques mois. Reportage et entretien avec notre correspondant Abdoulaziz Diallo dans une dizaine de minutes. La Cour de répression des infractions économiques de Guinée demande 5 ans de prison contre Ibrahima Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé. Arrêté il y a bientôt 3 ans, il est poursuivi pour corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les avocats de la défense ont tenté de leur côté de déplacer le procès sur le terrain politique. RFI Conakry, Mouktar Ba.
Au terme d'un réquisitoire très attendu, compte tenu des anciennes fonctions du prévenu, le parquet a eu la main lourde. 5 ans de prison ferme et une amende de 5 milliards de francs guinéens, un peu plus de 500 000 euros, et au remboursement de 15 autres milliards de francs guinéens qu'il aurait détournés. Ali Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières.
Les faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de corruption sont des faits qui sont suffisamment très graves. Nous estimons que 5 ans suffisent largement pour que le prévenu soit mis hors d'état de nuire et mieux. Les 5 milliards de francs guinéens d'amende, ça constitue vraiment la base légale de ce que nous avons poursuivi.
Pour l'État guinéen, les faits reprochés à l'ancien Premier ministre sont suffisamment graves. Maître Babayen Camara, avocat des partis civils.
Il y a les pièces, il y a eu le détournement des 15 milliards qui étaient destinés à la mamerie et ce montant a été mis sur le compte de l'Agnès. Des gens ont été payés indûment, donc les faits qui lui sont reprochés pour nous sont fondés.
La défense de Kassori Fofana n'a pas plaidé et dénonce une justice caporalisée. Maître Sidiki Bereté.
Quand ils vont rendre leur décision taillée sur mesure pour satisfaire les hommes de coup d'État, on va relever appel et on va exercer jusqu'au dernier recours. La force reste à la loi et vive la démocratie, vive la République de Guinée. À bas le coup d'État.
En attendant, rendez-vous est pris le 13 février pour le verdict du tribunal. Mokhtar Ba Conakry, RFI.
C'est une autre histoire de très fortes sommes d'argent et c'est une exclusivité que Radio France Internationale vous dévoile. Saïf al-Islam Kadhafi sort de son silence. Dans un échange écrit avec RFI, le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen suspecté de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de l'ancien chef de l'État français. Saïf al-Islam Kadhafi qui affirme aussi que le clan Sarkozy l'a approché à 3 reprises pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire. Les avocats de Nicolas Sarkozy démentent d'ailleurs ces accusations en les qualifiant de fantaisistes et d'opportunistes. Ouda Ibrahim sera en direct avec nous dans le prochain journal, 7h temps universel, dans une demi-heure. Et vous lisez cette enquête au complet sur notre site RFI.fr. La presse privée du Sénégal fait ses comptes et ils ne sont guère reluisants. 10 mois après l'entrée en fonction du président Bassirou Diomaye Faye. Ces journalistes de médias privés regardent dans le rétroviseur et commencent à collectionner les mesures au moins restrictives, sinon franchement pénalisantes, qui les visent les unes après les autres. Elles sont essentiellement fiscales. Le secteur a progressivement l'impression d'être asphyxié, comme nous le dit Mamadou Ibrakane, président du patronat de la presse sénégalaise.
Depuis plus de 10 mois maintenant, il y a une politique, une stratégie pour liquider la presse privée au Sénégal. Au niveau fiscal, le refus d'effacement donc fiscal octroyé aux entreprises de presse qui avaient subi de plein fouet la crise du Covid-19 et qui ne s'en sont toujours pas relevées. De la même manière, le nouveau régime a refusé des moratoires pour les entreprises de presse et s'en sont suivies des poursuites donc judiciaires qui ont abouti au blocage des comptes des entreprises de presse. De la même manière, au niveau économique, on veut tuer les entreprises de presse privée. Le gouvernement a pris la décision de résilier de manière unilatérale les contrats de publicité. Il y a également le fait que même la subvention à la presse, qu'on appelle communément aide à la presse, n'a pas été distribuée pour l'année 2024.
Mamadou Ibrakan, le président du patronat de la presse sénégalaise, avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff. De leur côté, les autorités continuent de parler de nécessité d'assainir le secteur de la presse privée, avec l'obligation de s'acquitter de ses impôts et de s'enregistrer auprès des autorités.
La liberté de la presse, encore les attaques massives qui la visent dans plusieurs pays du Sahel, mais un léger soulagement au Niger.
Oui, puisque finalement la chaîne Canal 3 TV n'est plus suspendue et que la garde à vue du rédacteur en chef a été levée, annonce hier du ministère de la Communication de la Transition. Ces deux mesures étaient tombées vendredi après un sujet pourtant habituel sur les ondes de Canal 3, le baromètre annuel des ministres selon leur action gouvernementale. Le président de l'Association des éditeurs de presse indépendante se réjouit de cette machine arrière annoncée par les autorités de Niamey, lui qui avait défendu le droit à la critique de l'action politique dans les médias. Ali Idrissa Zabeirou Souley.
C'est une opinion. Et l'opinion est libre. On ne peut pas interdire à un journaliste donc de donner son opinion par rapport à quelque chose. Parce que ici, d'abord, cette sanction, elle est très lourde aussi parce que, d'abord, il n'y a aucune procédure qui a été engagée. Et aussi, donc, le ministère de la Communication n'a pas qualité à sanctionner aussi un média ou un journaliste. Ça, c'est le travail dans le cadre de la transition, c'est l'ONC. C'est l'Observatoire national de la communication. Donc, c'est en violation même de la loi. Nous avons fustigé cela. C'est trop abusif. C'est pour la première fois qu'il y a une telle décision. Bon, heureusement que le ministre de la communication, après un certain nombre d'interpellations, il a pu se ressaisir. C'est une bonne chose. Vraiment, nous réjouissons donc de cet acte. Que la sagesse a prévalu.
Ali Idrissa Zabeirou Souley, qui est également directeur de publication du journal Le Temps. Le Sahel, encore, et la liberté finalement. Pour l'otage espagnol Gilbert Navarro, il avait été enlevé en Algérie il y a quelques jours et emmené par ses ravisseurs au Mali voisin. C'est le Front de Libération de l'Azawad qui affirme qu'il est libre en indiquant que l'homme est en bonne santé et sous sa protection, en attendant son transfert aux autorités algériennes. Fin de citation. Ce rapt, qui était survenu aussi quelques jours avant la disparition de 4 chauffeurs marocains au Burkina Faso, avant aussi la capture, en même temps aussi que la capture d'une autrichienne et d'un cadre nigérien il y a une dizaine de jours, tout un faisceau d'enlèvements. Aucun revendiqué, mais à chaque fois des sources locales qui pointent la responsabilité de la branche sahélienne du groupe État islamique. Ce que confirme le chercheur Guillaume Sotomayor, affilié au Middle East Institute et spécialiste des groupes armés qui écument le Sahel.
Une telle proximité de date indique une coordination d'un point de vue opérationnel. Et ce que cela envoie comme message de l'État islamique à ses concurrents locaux d'Al-Qaïda, c'est que le groupe existe bel et bien encore, malgré une période où Al-Qaïda avait l'initiative dans toute la zone. Cela indique que l'État islamique au Sahel dispose d'un certain nombre d'appuis, de relais, aussi bien dans certaines communautés locales que dans des points clés, notamment au niveau des frontières entre l'Algérie, le Mali, le Niger.
Est-ce que ça veut dire que l'État islamique au Sahel fait dorénavant de la prise d'otages un mode de financement ?
L'État islamique au Sahel et en Afrique de l'Ouest n'ont pas été les leaders de cette industrie qui, comme je vous le disais, était plutôt l'apanage d'Al-Qaïda. Ici, ce que ça nous indique, c'est que le groupe, d'un côté, avait peut-être des besoins financiers, mais montre également qu'il a des capacités importantes, qu'il va falloir compter sur lui également dans les prochaines années. Et donc, c'est un message très fort qui est envoyé, aussi bien, encore une fois, aux communautés locales qu'à tous les suiveurs, entre guillemets, de la cadavérie djihadiste, au-delà des frontières sahéliennes et ouest-africaines.
Guillaume Sotomayor avec David Bachet. La controverse continue de se faire entendre au Ghana. 3 jours après l'incident meurtrier survenu dans une mine d'or de la région Ashanti, 7 personnes au moins abattues par des militaires après s'être introduits illégalement dans la concession minière. Un événement qui réveille des tensions anciennes et récurrentes entre les grandes exploitations du premier producteur d'or du continent et les communautés locales. Victor Cariou.
Véhicules brûlés, écoles fermées pour des raisons de sécurité. Dans la commune d'Obouassi, région Ashanti, voici les conséquences des violences survenues en réponse à la mort d'au moins 7 personnes samedi 18 janvier. Si le bilan de l'incident de la mine Anglo Gold Ashanti est particulièrement sanglant, c'est loin d'être la première fois que de telles tensions surviennent au Ghana. Daryl Bossou est directeur national adjoint de l'ONG environnementale Arocha Ghana.
La plupart du temps, les habitants des communautés se plaignent de ne pas assez profiter de l'exploitation minière. Ces gens, pour beaucoup sans emploi, voient ces concessions prospérer. Cela agite beaucoup la jeunesse qui peut alors s'enflammer.
Des tensions d'autant plus exacerbées dans un pays qui traverse depuis 2 ans l'une des pires crises économiques de son histoire, poussant de plus en plus de citoyens vers l'orpaillage illégal.
En 2012, ces incidents étaient plutôt limités. Puis il y a eu certaines personnes qui ont commencé à en encourager d'autres en leur disant « S'ils ne vous donnent pas une partie de leur concession pour que vous puissiez creuser vous-même, allez vous emparer de tout ce que vous voulez. » C'est pour cela que c'est de plus en plus sanglant.
Un orpaillage illégal qui serait d'autant plus facilité par le silence de la nouvelle administration sur ce sujet, dénonce de son côté la coalition ghanéenne contre le Galamsey dans un communiqué publié lundi 20 janvier. Victor Cariou, Accra, RFI.
6 mois après les dégâts de Port-Boué, le dossier de ce journal retourne en Côte d'Ivoire.
Mais précisément dans sa capitale économique, donc Abidjan, qui lançait l'année dernière un plan dit d'assainissement du cadre de vie. Quasiment 180 sites identifiés par les autorités à travers la mégalopole, soit occupés illégalement, soit considérés comme à risque. Les bulldozers avaient commencé leur œuvre après que les habitants avaient été sommés de quitter les lieux. Et Abdoulaziz Diallo est retourné dans cette commune de Port-Boué.
Sur le site désolé de l'ancien quartier abattoir à Port-Boué, Ousseini contemple avec nostalgie les ruines de ce qui fut sa maison pendant 3 décennies. Il y a 6 mois, son domicile et son lieu de travail ont été détruits en une seule journée. Depuis, sa vie a basculé.
On est obligé de confier les enfants à les parents qui sont ailleurs. Et je suis avec madame de notre quartier. Avant, j'ai payé 30 000 sans salon. Mais maintenant, où je suis là, je suis obligé de prendre une maison de 50 000. Mais actuellement, je m'en vais jusqu'à Anyama pour aller travailler.
Ousseini n'est pas le seul à avoir vu son quotidien bouleversé. Cet autre habitant du quartier raconte son parcours semé d'embûches pour trouver un nouveau toit. Mais comme beaucoup, il garde l'espoir de recevoir un soutien des autorités.
Moi, personnellement, je n'ai rien reçu. Ni même 5 francs, ni même un terrain, comme on a vu dans le communiqué, que c'était à Nani. On se fait recenser, on attend. Le peu de moyens qu'on a, on a tellement mis ça dans la photocopie qu'actuellement, nous-mêmes, on garde notre argent maintenant pour voir autre chose. Je reste toujours optimiste.
Le quartier abattoir de Port-Boué devrait faire place à des logements au standing, des entrepôts et des espaces de loisirs. Les opérations de déguerpissement ont touché 20 sites sur les 176 identifiés dans la capitale économique ivoirienne. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Les autorités assurent qu'elles ont la situation bien en main et que les plans d'indemnisation ou de compensation foncière des déguerpis sont lancés. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan avance même des dates de court terme pour les premiers objectifs. Ibrahim Assissé Bakongo.
La cellule travaille sur le relogement de 15 000 foyers à Andonkwa 1 et à Anani. L'objectif que nous recherchons, c'est de loger ces personnes à l'horizon de mars 2025, c'est-à-dire donc dans 2 mois, 3 mois maximum. Nous travaillons très dur de sorte à ce que ce délai-là puisse être respecté. Concernant le dédommagement, il a aussi démarré pour ne pas dire qu'il a bien avancé. Donc nous travaillons dans le cadre donc de cette cellule qui a été mise en place à faire en sorte que personne ne soit oublié. Donc je voudrais rassurer que les personnes qui ont été impactées par l'opération de restauration de l'ordre sur les différents sites difficiles, que ce soit à Jesco, à Bouribana ou à Port-Boué, les personnes sont prises en main, sont prises en charge et dans les mois à venir, leur relogement sera effectif.
Ibrahima Cissé Bakongo avec Abdoulaziz Diallo.
Merci Edouard Dupénoat.